Demain j'ai 15 ans, de Juliette Keating, lue par l'autrice, aux éditions Manière Jeunesse dans la collection Presto. J'aime le matin. Le dimanche, je suis la première à ouvrir les yeux. Tout est calme dans l'appartement et dans l'immeuble. Peu de voitures passent sur la grande avenue qui longe la cité. J'entends les oiseaux entrelacer leurs chants de l'aube parmi les arbres entourant le square. Je me glisse hors de mon lit, en faisant bien attention à ne pas me casser la figure dans l'obscurité. Moi, c'est en haut. Le lit du bas est celui de mon petit frère, Lucas. J'écoute sa respiration douce et régulière, tandis que je m'habille à tâtons. La douche, ça sera tout à l'heure, après le petit déjeuner pris tous les trois. Sans bruit, je quitte la chambre. Maman dort toujours. Elle a laissé de la monnaie sur l'étagère de l'entrée. Je serre les pièces dans le creux de ma main et je sors de l'appartement, la clé au fond de ma poche. Nous habitons au 12e étage. Quelquefois, l'ascenseur tombe en panne. Mais aujourd'hui, je perçois le cliquetis de la machinerie et la lumière éclairant la cabine qui stoppe devant moi. Dans le hall, je croise la voisine du 3e. Une vieille du genre à moustache qui revient déjà du marché en tirant un caddie obèse d'où dépasse le verre des poireaux. Nous nous saluons. Mais je n'ai pas envie de parler. Le matin, c'est mon moment précieux. Je ne veux pas le gaspiller en bavardage. Ce matin, je sens que l'air a changé. Plus léger, plus doux, plus lumineux aussi. Le soleil qui se lève teinte de rose les tours les plus à l'est. Alors, je me dis que ça y est. L'hiver a renoncé à nous pourrir la vie avec ses pluies froides et ses brumes poisseuses qui enveloppent tout de leur coton sale. Cette lumière pétillante et joyeuse, je la reconnais, c'est celle du printemps tout neuf. Le grelot tintinabule gaiement, annonçant mon entrée dans la boulangerie. Ça sent bon le pain chaud. Le boulanger m'accueille avec un grand sourire, comme si c'était la meilleure chose qui lui arrivait chaque dimanche, me voir débouler dans son magasin. Quand papa vivait avec nous, il discutait longuement avec le boulanger. Il parlait de la Tunisie, que papa connaît bien pour avoir travaillé à Tataouine pendant 3 ans, juste avant de rencontrer maman. Le boulanger s'est installé en France il y a 40 ans, ses fils sont nés ici. Mais je sais que l'amour du désert bat toujours dans son cœur. J'achète une baguette tradition et un pain matelot. Alors, 2 traditions pour Mademoiselle Sarah, lance le boulanger, qui ajoute un bonbon, comme quand j'étais petite et que je venais avec papa. Il me manque. Non, pas séparée. Je suis furieuse. Margot ment pour me faire mal. Oui, mes parents sont toujours ensemble. En novembre, un jour où Spider, la prof d'anglais, était malade, on a commencé plus tard. Lucas était à l'école, maman partie à son boulot. Je me suis glissée dans la chambre des parents. Maman déteste que l'on entre chez elle. Elle l'interdit. J'avais l'impression de commettre un crime en tournant la poignée de la porte. Ce n'est qu'en passant devant le grand miroir que je me suis rendu compte du ridicule. Je marchais sur la pointe des pieds. J'ai ouvert l'armoire. Les affaires de papa étaient à leur place, ses pulls empilés, ses chemises pendues avec ses vestons, ses chaussures dans leur boîte. Des cintres vides, bien sûr, mais pas tant que ça. Quand il est parti, il y a 6 mois, papa ne voulait emporter que le nécessaire. « J'ai horreur des bagages encombrants », a-t-il dit. « Quand on n'emporte pas tout, c'est qu'on a l'intention de revenir, non ? » D'ailleurs, il est rentré pour les fêtes. Pendant 2 semaines, le corps de papa était ici. Pas très grand, un peu rond, moelleux et chaud quand il me serre fort contre lui. Le corps de papa a repris sa place dans l'appartement, sur le canapé, dans la cuisine et la salle de bain. Autour du sapin que nous décorions avec Lucas qui sautait de bonheur. Son parfum, sa petite toux du matin. La voix de papa, le son de ses mots occupait de nouveau l'espace quand il nous parlait d'un ton joyeux, ou quand il lisait une histoire à Lucas. Mais il y avait quelque chose de forcé dans sa gaieté, comme s'il devait sans cesse lutter contre la distraction, repousser des pensées qui le tiraient très loin de nous. Où était l'esprit de papa ? Ailleurs. « Tu te fais des idées, » me dirait maman. Mais je lui pose peu de questions auxquelles elle ne répond jamais. Elle lance, agacée. C'est des histoires d'adultes. Sa façon de me renvoyer à l'enfance comme un chien qu'on envoie à la niche, comme si j'étais incapable de comprendre, comme si l'absence de papa ne me concernait pas, comme si je pouvais respirer un air qui s'épaissit, se pollue, devient irrespirable sans remarquer que j'étouffe. Selon elle, quand on a 14 ans, et même presque 15, on est encore une gamine. Profites-en. Elle dit ces mots d'un air triste et elle me caresse la joue du bout des doigts. Maman trouve que j'ai trop d'imagination et ça lui fait peur. Les affaires de papa sont rangées dans l'armoire. C'est pour son travail qu'il est parti. Il nous aime encore et va revenir au mois d'août, il l'a promis. Mais en nous souhaitant une bonne année, il nous a pris longuement dans ses bras, Lucas et moi, ses deux enfants, comme pour un faux au revoir qui serait un adieu en vrai. Je ne sais pas quoi en penser. Le soir, je regarde mon petit frère jouer. Il ne se doute de rien. J'envie son innocence, mais j'ai des pincements au cœur. Alors, tu l'as vu ? Margot me saute dessus à 8h10. Je grommelle. Vu quoi ? Ce matin, je suis de l'humeur d'une ours qu'on a réveillée pendant son hibernation. L'hiver a décidé de mener une ultime bataille, en nous perdant dans le brouillard. On n'y voit pas à un mètre. Mais j'ai mis mon petit pull azur, aussi léger que sa maille. Je grelotte. Les élèves ont le nez enfoui sous leur cache-cou, la tête au fond des capuches. Une armée de zombies frigorifiés. Seule Margot est déjà à 100 à l'heure, prête à attaquer la semaine comme une coureuse dans les starting blocks. Elle trépigne devant les portes encore closes du collège. Hey « Hé Sarah, je te parle, tu l'as vu ?» Je hurle. « Mais qui ? Mais quoi ?» Je ne veux pas qu'on discute encore de mon père et je profite de l'ouverture des portes pour me faufiler dans la cohue, brandissant mon carnet de correspondance sous le nez du surveillant. Margot me retrouve dans la cour. L'apprenti du boulanger, tu l'as vu ? Il est magnifique ! Je ne réponds rien, tandis que la prof de SVT s'amène à petits pas un tas de photocopies sous le bras. On l'appelle la furette, à cause de son nez long et pointu qu'elle remue en parlant, comme un petit rongeur. La classe a l'air d'une mèche de cheveux mal peignée. Les quatre premiers sont rangés et derrière, ça part dans tous les sens. La furette nous remet en place et le rang lissé des 3e F s'engouffre dans le bâtiment. L'apprenti du boulanger. Je l'ai peut-être vu dimanche. J'ai remarqué une silhouette inconnue, vêtue de blanc, casquette et tablier, qui disposait la pâte à enfourner. J'ai dû l'apercevoir par la porte ouverte de l'arrière-boutique. Mais je pensais à papa et je n'ai pas fait attention. Il a les yeux verts, c'est incroyable tellement c'est beau. On dirait les yeux de pirouette, s'enthousiasme Margot. C'est sa chatte, une corate au pelage bleu-gris. Elle en est folle dingue. Elle passe des heures à la câliner sur son lit et à l'écouter ronronner comme si c'était du Mozart. Pirouette me déteste. Elle fait la tigresse et feule la queue hérissée. Elle me griffe dès que je pose un pied sur son territoire, la chambre de Margot. J'en ressors avec des égratignures sur les mains et des poils partout sur mes vêtements. Margot a tellement envie de tomber amoureuse qu'elle trouve magnifique tous les garçons qu'elle croise, pourvu qu'ils aient une forme humaine et des yeux de chat. Les garçons sont des tons, les garçons sont des tons. Les garçons sont des tons avec un T comme crocodile. On chante le refrain dans les couloirs du collège sur l'air d'un cha-cha-cha des années 1980 que la belle-mère de Margot adorait quand elle avait 10 ans. Ce fou rire le jour où elle nous l'a fait écouter. On a tout de suite modifié les paroles et c'était parfait pour les garçons. Des tons avec un T comme crocodile. Des animaux hybrides, mi-poisson, mi-reptile, à l'air bête et méchant. Les garçons de la 3e F sont 12 cas pathologiques graves. Non, 11 seulement. David est différent. Peut-être parce qu'il est nouveau et qu'il vient d'ailleurs. Du matin au soir, les tons nous observent, guettent nos moindres gestes pour nous critiquer. Les filles côtoient toute la journée des malades mentaux sévèrement atteints, des psychopathes incurables, des tarés profonds, sans que personne ne s'en inquiète. Il paraît que c'est normal pour eux à l'adolescence. Mais la principale du collège, qu'on appelle la girafe, vous devinez pourquoi, a convoqué 2 psychologues dans la classe pour qu'on parle de nos émotions et qu'on apprenne à les gérer. L'une est très lente et l'autre parle sans cesse en zozotant. Margot s'est fait remarquer tout de suite. quand les psychologues nous ont demandé ce qu'on voudrait faire plus tard, après le lycée. Elle a fièrement annoncé qu'elle serait michetonneuse. Les garçons ont hurlé et les psys ont froncé les sourcils. Alors, Margot a continué dans la provocation. Elle a développé sur son goût pour l'argent et la facilité pour une fille mignonne comme elle de vivre au calme en profitant du fric d'un homme crédule. Letton avait la langue pendante. Il demandait des détails alors que les psychologues essayaient de changer de sujet. La séance a été intéressante, mais les psys avaient des rides plein le front. Elles ont annoncé qu'elles reviendraient. Il faut qu'on leur trouve des surnoms. La panda et l'abeille? Ce collège est un zoo. Margot. Elle est mon amie depuis la 6e et nous sommes toujours dans la même classe. Moi, je passe des heures à hésiter, à peser le pour et le contre pour finalement ne rien décider. Les gens appellent ça de la timidité. À l'école, depuis toute petite, on m'a étiquetée « élève trop réservée ». Ma grand-mère, Mamoun, prétend que je suis une enfant qui réfléchit. Margot, elle, fonce et agit. Elle affirme qu'il ne faut pas se dissimuler la vérité et que l'on surmonte les problèmes uniquement en y faisant face. Elle dit que la vie, ce n'est pas si sérieux et que l'on doit accepter ce qui nous arrive avec humour. Margot n'a peur de rien ni de personne, tout est pour elle jeux et rigolades. Malgré nos caractères très différents, nous ne nous disputons jamais. J'admire son courage, sa bonne humeur, son sens de la répartie. Margot est souvent punie, sa liberté un peu agressive agace les adultes, mais elle ne se plaint jamais. Pourtant, il y a des jours où son attitude m'énerve. Dans la vie, il y a des moments graves, des moments tristes, où le rire n'est pas un réconfort mais une souffrance ajoutée à la souffrance. Margot parle de ce qu'elle appelle la séparation de mes parents, en me disant que j'ai vraiment de la chance, que les enfants de divorcés sont les plus gâtés et que j'aurai deux fois plus d'argent de poche, de vacances et de cadeaux à Noël. Puis elle éclate de rire. « Mais non, je rigole !» Je n'aime pas. J'ai l'impression qu'elle ne cherche pas à me comprendre et qu'elle ne respecte pas mon inquiétude, qu'elle ne me respecte pas. Et ça me blesse. Elle n'est pas si heureuse qu'elle s'en donne l'air, Margot. Sa mère est morte d'une maladie qui l'a emportée brutalement quand elle avait 6 ans, et elle lui manquera toute sa vie. Sa belle-mère est très gentille. Elle s'occupe d'elle sans aucune différence avec sa demi-sœur. Même si Margot n'en parle jamais, je sais que ça n'est pas pareil. Je la regarde marcher quand elle s'éloigne le soir et rentre chez elle. Son pas est lourd, beaucoup trop lourd pour une silhouette toute fine trimballée sur de si longues jambes. C'est comme si elle portait le fantôme de sa mère sur son dos, tout le temps, partout. Sa douleur pèse un poids terrible. Quand je me mets à sa place, je ressens moi aussi la blessure de l'absence, comme si j'avais perdu ma mère et ça m'effraie. Les psychologues nous ont expliqué que la capacité de se mettre à la place d'autrui, de le comprendre, on la nomme empathie. Elles ont dit que c'était un sentiment indispensable aux humains, que pour certains, l'empathie était intuitive, mais qu'on pouvait aussi apprendre à la ressentir. Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que la souffrance de Margot, qu'elle cache sous ses éternels éclats de rire, l'empêcherait d'avoir de l'empathie? Nous sommes très proches, mais est-ce que nous nous comprenons vraiment? J'ai parfois l'impression que les gens voient une autre fille, que ça n'est pas moi, cette Sarah, la meilleure amie de Margot. Pourtant, notre amitié est très importante et je voudrais tant que Margot soit heureuse. J'ai du mal à comprendre qui je suis et ce que je veux. Tiens, tiens, a sifflé Margot. Hier, ils ont encore traversé la cour ensemble. Côte à côte, leurs épaules se touchaient. Ils se parlaient d'un air complice. La furette remuait plus que jamais son nez pointu, et le prof de sport qu'on surnomme le Fennec arborait au bout de ses grandes oreilles un rouge pétant que la fraîcheur du matin ne pouvait seule expliquer. On les a suivis des yeux, puis on s'est regardés. Il y avait anguille sous roche, comme dirait Mamoun. Margot a lancé un « tiens, tiens » plein de sous-entendus en me poussant du coude. Tout de suite, on leur a imaginé une relation torride et une vie sexuelle intense. « Oh oui, ma furette chérie, encore, encore, mon fenêtre d'amour !» Depuis, nous observons le ventre de la prof de SVT. Nous sommes sûrs qu'il contient une portée de petits furnecs qui naîtront avec un handicap dans la vie. Le terrible combo nez pointu, grandes oreilles. À la fin du cours, Margot a levé la main. Elle a demandé si le fennec avait une grosse queue. Toute la classe a éclaté de rire, et la furette lui a répondu que si les fennecs l'intéressaient, elle pouvait faire un exposé. Les rires ont redoublé. La prof a haussé les épaules. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. » Heureusement, ça a sonné. En sortant de la classe, un garçon a bousculé Margot en la traitant de crasseuse. Lui, tout le monde sait qu'il est amoureux de la furette. Elle a l'âge de sa mère, alors qui est le plus crasseux des deux? Pendant la récréation, nous nous asseyons toujours sur le même banc, à l'écart de la zone où les tons jouent au foot, les deux tiers de la cour. Aujourd'hui, Sonia est pâle, malgré la couleur de sa peau. Nous détestons avoir nos règles. C'est la punition d'être fille, une fois par mois, ce sang qui tache le fond de nos jeans quand on n'a pas ce qu'il faut. Gare à nous si les garçons s'en aperçoivent. On est bonne pour des moqueries, des cris de dégoût, en plus du sang et de la douleur. L'infirmière qui nous dépanne d'habitude est absente. Sonia devra passer la journée avec son pull noué par les manches autour de sa taille pour cacher les auréoles sur ses fesses. Sonia prétend qu'elle déteste les garçons, qu'elle ne vivra qu'avec des filles. Margot lui demande si elle est lesbienne. Mais Sonia répond, en grimaçant à cause de son mal de ventre, que ça n'est pas sexuel, qu'elle se fiche bien du sexe, que ça la dégoûte encore plus que les règles. Nous sommes toutes les trois d'accord. On regarde les tons se renvoyer la balle d'un bout à l'autre de la zone de foot en criant. Certains nous jettent des regards méfiants. Puis nous observons les autres garçons. Il y a David, qui lit dans un coin comme à son habitude. Il nous a raconté qu'il avait appris le français grâce au livre. Il a un accent, mais il parle mieux que nous, en utilisant des mots rares, sans se vanter. Soudain, Margot se fige, l'œil brillant, le souffle court. « Regardez, c'est incroyable comme il a changé, Axel. Il est magnifique !» Mamoun, telle une pomme. Le visage de ma grand-mère, lisse et doux, n'a pas vieilli en se plissant de mille rides. Sa peau velours a des reflets rosés aux pommettes, et quand je m'approche d'elle pour l'embrasser, son parfum est frais et sucré. L'âge de Mamoun ne se perçoit que dans son attitude, elle est calme. Quand elle vient à la maison, nous nous agitons autour d'elle. Lucas court et saute partout, maman lui parle sans respirer, comme une mitraillette enrayée. Et moi, j'essaie d'attirer son attention. Assise au salon devant une tasse de thé, au milieu de nos trois tourbillons, Mamoun nous regarde avec un sourire bienveillant. Les psychologues nous ont expliqué que la bienveillance, c'est le fait de vouloir le bien des autres. C'est une forme de générosité. J'ai tout de suite pensé à Mamoun. Je voudrais passer plus de temps avec elle, juste nous deux. Mamoun habite à la campagne. Il faut prendre le train et maman pense que je suis encore trop jeune pour voyager si loin toute seule. Pourtant, avec le GPS de mon smartphone, je ne me perds jamais. Mais pour elle, je ne suis qu'une gamine, et donc en danger sans la présence d'un adulte à mes côtés. Aujourd'hui, Mamoun me regarde plus que d'habitude, de manière spéciale. Je le remarque et j'en suis flattée. Elle s'émerveille que j'ai tant grandi. D'après elle, j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus une enfant, mais une belle jeune fille. Je regrette que papa ne soit pas là pour l'entendre. Mais les paroles de Mamoun ne rassurent pas maman. Au contraire, elle marmonne que c'est pire, que je risque de me faire embêter par des hommes dans le train sans savoir comment réagir. Maman me croit naïve et sans expérience. Une proie facile pour des cinglés, dit-elle. J'ai envie de raconter à Mamoun ce que je ne peux pas dire à maman. J'aimerais que nous discutions de Margot. Cette folle est allée chercher Axel au conservatoire et lui a déclaré qu'elle le trouvait mignon et qu'elle voulait sortir avec lui. Axel a haussé les épaules, il ne lui a même pas répondu. Aussitôt, l'histoire a tourné sur les réseaux sociaux. Axel s'est vanté de la déclaration de Margot en affirmant qu'il ne sortirait jamais avec une michetonneuse. Tout le collège s'est moqué d'elle et il a fallu que son père menace les autres parents de porter plainte à la police pour que ça s'arrête. J'aimerais avoir l'avis de Mamoun. Elle connaît Margot et elle l'apprécie. Je sais qu'elle ne se fâchera pas. Est-ce qu'une fille a le droit d'aller trouver un garçon pour lui dire qu'il lui plaît? Mais maman veut lui parler de papa. Elle nous envoie jouer dans notre chambre. J'écoute leur voix à travers la porte et les larmes brouillent mes yeux. Mars est capricieux. La semaine dernière, il me donnait des espoirs de printemps. Aujourd'hui, il pleut. Toute lumière s'est retirée d'un ciel bouché de nuages laids. J'ai enfilé un vieux blouson et des bottes en plastique moches. Pour ne pas décevoir maman et surtout Lucas, je me suis extirpée de mon lit à contre-cœur et je suis descendue acheter le petit déjeuner malgré l'averse. C'est dimanche. Je traverse la dalle sous une pluie battante en courant. Je sens mes cheveux se mouiller. Ils sont trempés quand je pousse la porte de la boulangerie. L'eau glacée dégouline sur ma nuque, je frissonne. Heureusement, le sourire du boulanger est déjà une récompense, comme le parfum de son pain juste sorti du four. Je m'ébroue comme un chien. Le boulanger me demande comment va la famille, et je m'apprête à répondre que papa sera bientôt de retour quand une sonnerie de téléphone retentit dans l'arrière-boutique. Le boulanger s'excuse. Il attend un appel urgent de Tunisie. Il s'en va vite répondre, l'air préoccupé. Je ne suis pas pressée. La pluie frappe avec une force redoublée la vitrine du magasin, sur laquelle sont scotchés des prospectus annonçant des activités du quartier. Je lis qu'il y aura un vide-grenier dans 2 semaines. Ça serait l'occasion de me débarrasser de mes affaires de petite fille et de me faire un peu d'argent de poche. Je m'imagine tenant mon stand, vendant mes anciens livres et les poupées qu'on m'a offertes mais qui ne m'ont jamais intéressée, encaissant une petite fortune dans une boîte à biscuits métallique. J'ai besoin de nouvelles baskets, je voudrais choisir moi-même. Si c'est moi qui les paye, avec mon argent, maman ne pourra rien dire. Pour mademoiselle, ça sera... La voix claire me fait sursauter. Ça n'est pas celle du boulanger. Je me retourne et mon regard plonge dans 2 grands yeux verts. Casquette et tablier blanc, de la farine jusque sur le nez, un jeune homme me sourit. Je reste immobile, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Mon cœur s'emballe, mes mains tremblent, j'ai soudain très chaud et je sens que je rougis. Je bredouille enfin une réponse, tire un euro 10 de ma poche que je jette sur le comptoir. Je lui arrache presque le pain des mains et je pars en courant, emportant ma baguette tradition sous la pluie. J'ai oublié le matelot. Je dirai à Lucas qu'il n'y en avait plus. Essoufflée, je claque la porte de l'appartement. Je pose la baguette sur la table de la cuisine et m'effondre sur une chaise. Je fais le bilan. Blouson démodé, bottes horribles, cheveux collés par l'eau sur mon front, bégaiements imbéciles. L'apprenti du boulanger doit encore rire de moi dans la boutique. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai trop honte. Je ne retournerai plus jamais dans cette boulangerie. Donne-toi une deuxième chance, m'a lancé Margot comme un défi. Aujourd'hui, tout est différent. Le ciel est limpide, le soleil, lui. Le quartier a des couleurs de carte postale. Avec Margot, nous avons passé la matinée à mettre au point un plan parfait. Il est 16 heures. J'ai pris le temps qu'il fallait pour transformer la grenouille trempée par la pluie en une princesse convenable. L'apprenti du boulanger ne me reconnaîtra pas. J'ai réuni mes cheveux en un petit chignon posé haut sur le crâne et j'ai piqué à maman du maquillage pour agrandir mes yeux et noircir mes cils. Après beaucoup d'hésitation, j'ai opté pour une tenue simple, mon jean slim et mon gilet bleu comme l'été. J'ai fait un selfie que j'ai envoyé à Margot. Elle m'a répondu par 3 cœurs. Il est 16h15. J'enfile mes baskets neuves, qu'à ma grande surprise, maman m'a achetées après m'avoir demandé de choisir celle qui me plaisait. Je me regarde dans le petit miroir de la salle de bain. Pas mal du tout. J'annonce à Lucas que je vais lui chercher un pain matelot et je sors vite, sans lui laisser le temps de me demander s'il peut m'accompagner. Il est 16h20. C'est parti. Dans le hall, je croise la voisine à moustache qui me dévisage et s'étonne que je ne sois pas au collège. Je lui réponds que les profs avaient une réunion et je file. Je traverse la dalle, il fait chaud. Je marche le dos bien droit pour faire ressortir les seins comme je l'ai lu dans un magazine. Mais je tombe sur 3 élèves du collège qui me regardent comme s'ils me voyaient pour la première fois. Je ne m'arrête pas et fais semblant de ne pas entendre leurs commentaires. Ces idiots ne feront pas échouer le plan. Il est 16h23. Dans 2 minutes, Margot téléphonera à la boulangerie et voudra parler au patron. À cet instant, j'entrerai en faisant tinter le grelot fixé à la porte. Au téléphone, Margot demandera plein de renseignements pour un gâteau à la meringue très compliqué. L'apprenti sera obligé de venir me servir. Et là, ça sera à toi de jouer, a dit Margot. J'ai peur. Mon pas ralentit, pourtant je ne peux plus reculer. Il faut que j'efface l'image détestable que j'ai donnée de moi dimanche. Mais j'ai l'impression que mon chignon se défait, que le col coule sur mes joues, que je suis hideuse comme jamais. Je traverse la rue sans rien regarder. Je respire un grand coup et je pousse la porte de la boulangerie. Elle ne s'ouvre pas. Je pousse plus fort. En vain. J'entends le téléphone sonner longuement à l'intérieur. Mais tout est éteint. Un post-it est collé sur la vitre, fermé jusqu'à mercredi pour raison familiale. J'en pleurerai de rage. Je n'aurai jamais le courage de recommencer. Je donne un grand coup de pied dans la porte. Salut. Le patron est parti en Tunisie à cause du décès d'un oncle. Je sursaute. Ce garçon surgira-t-il toujours dans mon dos par surprise? Je prends un air désolé, mais mon cœur bat à se rompre. Je l'écoute m'informer qu'il est passé réceptionner des livraisons, que ça rouvrira jeudi quand le boulanger sera rentré. Je regarde ses lèvres bouger, dessiner un sourire. Il me parle à moi? J'ose à peine fixer ses yeux, qui sont comme deux planètes d'émeraude. Il me regarde, moi? C'est la première fois que j'ai la sensation si forte d'exister. T'habites le quartier? Tu t'appelles comment? Lui, c'est Michel. Il a 17 ans. Il s'appelle M. Moi, bien sûr, j'entends M. Je prononce en boucle la belle initiale de son prénom. M. C'est magnifique, merveilleux, magique. J'aime dire M et je tremble. Michel, ce blase de daron, s'est moqué Margot. Des Michael, il y en a deux au collège. L'un est sans intérêt, et l'autre populaire, plutôt mignon. Mais aucun Michel. Le grand-père de Sonia s'appelle Michel. Alors Margot triomphe. Le prénom de papy. Et son fou rire se prolonge jusque dans le cours d'espagnol. Un rire nerveux, mauvais. Bien fait, Zorro l'a viré. Ce prof, on l'appelle Zorro parce que c'est son nom dans la langue de Cervantes, comme dirait Mamoun. Monsieur Renard. Mais il ressemble plutôt au sergent Garcia, une vraie baleine. Je ne comprends pas pourquoi Margot cherche soudain à me rabaisser. Je ne la reconnais plus. Dans la cour, nous nous asseyons sur notre banc, et je n'en crois pas mes oreilles, elle me fait la leçon. De sa bouche sortent les mots d'une vieille. À notre âge, on est trop jeune, on n'a pas le droit d'être amoureuse. Si ta mère le savait. Margot est vexée parce que Axel lui a dit non. Elle espérait peut-être que l'apprenti du boulanger m'enverrait balader aussi. Moi, je suis amoureuse. Nous nous sommes à peine parlé, mais je pense à lui le jour et la nuit. J'ai envie d'être avec lui. J'ai envie de l'embrasser et qu'il me touche, qu'il me prenne dans ses bras. Dans mes pires cauchemars, il me rejette en riant. Mais dans le mensonge du rêve, nous faisons ce que je n'ai encore jamais fait avec personne en réalité. C'est délicieux. Et alors, ma mère va faire quoi? Me tuer? Non, mais j'ai peur. Maman ne veut pas me voir traîner avec les garçons. Elle m'a souvent averti, l'index levé. Attention à toi! Elle trouve qu'une fille doit attendre d'être adulte, d'avoir terminé ses études et de se sentir prête pour le mariage avant d'envisager une relation avec un homme sérieux. Attendre? Attendre? Je ne veux pas attendre pour vivre. On attend et le temps passe. On ne peut plus profiter de rien. Maman a vieilli d'un coup, de tristesse, parce que papa est parti. Il l'a quittée. C'est ce qu'elle a dit à Mamoun l'autre jour. Je l'ai entendue à travers la porte de la chambre. Si Axel a refusé Margot, si maman a perdu papa, ça n'est pas ma faute. J'ai le droit d'être heureuse, moi. Maman me trouve bizarre. D'abord, elle m'observe du coin de l'œil longtemps. Puis d'un coup, elle me pose une rafale de questions. Tout se passe bien au collège? Tu es sûre? Avec Margot ça va? Et tes notes? J'ai beau tenter de la rassurer, elle n'est pas tranquille. Elle me reproche d'être de plus en plus rêveuse, tête de linotte, comme dirait Mamoun, et de changer d'humeur brutalement. Moi qui n'ai jamais apprécié qu'elle m'envoie faire les courses, je suis soudain volontaire. J'attrape le panier, la liste et j'y vais. Mais je n'ai rencontré M que deux fois, malgré tous les détours pour passer et repasser devant la boulangerie. La première fois, on s'est juste salué de la main à travers la vitrine. La deuxième fois, il garait son scooter. On a discuté. M m'a dit qu'il habitait avec ses parents à 20 minutes quand ça roule sur les boulevards extérieurs. Il a hâte de ne plus être apprenti, de travailler, de toucher un salaire pour être indépendant. Il ne s'entend pas avec son père. Nous avons eu une conversation qui ressemblait à celle des adultes. J'ai aimé ça. Lui, il ne me prend pas pour une gamine. Il m'a dit que le bleu m'allait bien. J'ai porté ces mots en moi le soir et la nuit, et les jours d'après, tel un trésor. Maman a trouvé étrange mon silence à table pendant le dîner, et cette façon de sourire à tout sans rien écouter. J'ai débarrassé le couvert, tandis qu'elle s'installait avec Lucas devant un dessin animé. Puis je me suis réfugiée dans la chambre. Je leur ai dit bonsoir en passant devant le canapé. Maman s'est encore inquiétée. « Tu n'es pas malade au moins ?»« Moi ? Oh non !» Nue. J'ai retiré mes vêtements dans la chambre de maman. J'ai tiré les rideaux en laissant passer un rayon de lumière qui suffit à m'éclairer. Dans le grand miroir, je vois un corps de femme, et c'est le mien. Pour la première fois, j'ose regarder mon corps nu. Je suis mince. Et même si je trouve mes fesses et mes cuisses énormes, ma taille reste fine. Mes pieds sont petits et mes chevilles étroites. J'aime le galbe de mes mollets, ni trop rond, ni trop plat. Ça ne me plairait pas d'avoir les jambes allumettes de Margot. Et M, est-ce qu'il aimera? Je frissonne, même s'il fait doux dans la chambre. Mes seins ne sont pas très gros. Dans mes mains, ils sont comme deux oisillons duveteux. Pour la première fois, j'ose les toucher vraiment, sentir leur poids, leur tiédeur. Je transpire et je n'aime pas ça. Ma sueur a une odeur poivrée. Il faudrait que je me rhabille, maman va bientôt rentrer avec Lucas. Mais je n'arrive pas à détacher mes yeux de l'image de ce corps reflété dans la glace. Est-ce que je suis belle? Je ne sais pas. Mon ventre est dur, musclé. Plus bas, j'ose regarder ce que je n'ai jamais voulu voir vraiment. J'écarte un peu les jambes. Je n'ai plus peur. Je glisse ma main entre mes cuisses. C'est doux et chaud. C'est bon. Je ferme les yeux. Je me sens bien. Pour une fois, ma tête et mon corps sont d'accord quand je pense à M. Soudain, j'entends l'ascenseur qui stoppe à l'étage. Un bruit de clé. La porte de l'appartement claque. Maman m'appelle. Affolée, j'attrape mes habits et je saute hors de la chambre des parents, tandis que maman pose les courses dans la cuisine. J'ai juste le temps, en trois bonds, de rejoindre la mienne et de me hisser sur mon lit. J'enfile ma culotte et mon t-shirt. J'ouvre un bouquin au hasard. Maman entre dans la chambre. « Lucas est invité chez un copain. Tu pourras aller le chercher tout à l'heure ?»« Qu'est-ce que tu as? Tu es couché ?» Je réponds qu'il fait chaud et que je me suis mise au frais pour lire. Maman secoue la tête. « Tu tiens ton livre à l'envers. Tu es vraiment bizarre en ce moment. » Ma mère va me tuer. C'est des mots que l'on dit, une expression toute faite pour quand ça va mal. La prof d'histoire m'a collé, ma mère va me tuer. J'ai déchiré mon blouson, ma mère va me tuer. Je suis en retard, ma mère va me tuer. J'ai eu une mauvaise note, ma mère va me tuer. Mais personne n'imagine sérieusement que sa mère le tuera. Aucun de ses problèmes de gosse n'est vraiment grave. J'ai accepté un rendez-vous. Nous étions seuls dans la boutique. Il m'a demandé à quelle heure je sortais du collège demain et je lui ai répondu. Si maman découvre que je mens, que je ne suis pas allée chez Margot pour terminer l'exposé de physique, elle me tue. Et ça n'est pas qu'une expression. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Je songe à cela, au milieu de la nuit. Le corps ne meurt pas toujours quand l'esprit ne vit plus. Je ne dors pas. Demain ne viendra jamais. Impossible de rester sans bouger, de trouver le calme, pour accueillir le sommeil et l'oubli. Le sommier craque quand je me tourne et me retourne dans le lit. J'ai peur de réveiller Lucas. Je regarde mon téléphone, mais tout le monde est endormi, même Margot. Je ne lui ai rien dit de mon rendez-vous avec M. C'est la première fois que je lui cache quelque chose. Est-ce que ça signifie qu'on est moins amis? Est-ce que j'ai le droit de garder des choses pour moi sans trahir notre amitié? Toutes ces heures d'insomnie me rendent folle d'ennui. M m'a dit « Moi aussi je termine à 17h. Mon scout est en panne, alors on se verra peut-être à l'arrêt du bus. » Je n'ai rien à faire à l'arrêt du bus. Le collège est à 100 mètres de chez moi et je dois aller finir l'exposé de physique chez Margot. Mais j'ai hoché la tête, d'un air ravi, comme si c'était tout à fait naturel. Quelle idiote. Je lui dirai que j'ai oublié, que j'ai eu autre chose à faire. Je lui dirai qu'on est sorti plus tard du collège, qu'il fallait aller chercher Lucas à l'école. J'étais malade. Maman m'a envoyé faire les courses très loin. Ma grand-mère est morte. Ah non, pas cette horreur. Je ne lui dirai rien. parce que je ne retournerai plus jamais à la boulangerie. Est-ce qu'il va vraiment m'attendre à l'arrêt du bus ? Il a dit peut-être. Est-ce que c'est bien un rendez-vous, ça ? Mais il a prononcé ces mots sur un certain ton, comme si ce peut-être était une manière de dire « Viens, s'il te plaît, j'aimerais trop que tu sois là. » J'irai, mais je me cacherai pour l'observer. De loin, je verrai s'il m'attend. J'arriverai en courant à la dernière seconde et je monterai dans le bus avec lui. Demain, peut-être, j'oserai toucher sa main. J'en tremble d'angoisse et de plaisir aussi. Voilà, je vous ai lu la moitié du texte. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire de Sarah et de M, à vous de lire.